Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'avenir institutionnel.
Oui, la commission des lois à l'Assemblée nationale a donc terminé l'examen de la réforme constitutionnelle. Elle était réunie depuis la nuit de mardi à mercredi pour étudier ce projet de loi constitutionnelle sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais les groupes de gauche et le Rassemblement national ont repoussé les articles du texte qui traduit l'accord de Bougival dans la loi. Il n'y a pas eu de vote sur l'intégralité du projet de loi constitutionnelle, mais simplement sur les articles et les amendements qui ont été rejetés. Un texte qui passera en séance publique de l'Assemblée nationale à partir de mercredi prochain, le 1er avril, et qui pourrait également être examiné les 2 et 3 avril. Si l'Assemblée nationale valide le texte, alors il poursuivra son parcours parlementaire en vue d'une consultation des Calédoniens avant le 26 juillet, avant un passage au Congrès de Versailles, et un report des provinciales est prévu jusqu'en fin d'année. Tandis que s'il est rejeté, alors les élections provinciales devront se tenir avant fin juin. Au cours de cette séance, les échanges ont été parfois tendus autour de cette question du corps électoral notamment. Le député indépendantiste Emmanuel Tchibaou a de nouveau appelé à l'organisation d'élections provinciales rapidement avec un corps électoral gelé.
Il n'y a aucun pays dans le monde qui a gelé son corps électoral. Et le FLNKS, il a engagé ce principe parce que c'est un principe de rééquilibrage et de décolonisation. À partir du moment où l'inégalité, elle existe aujourd'hui, encore pour les Kanaks, sur le plan social, sur le plan de l'accès à l'emploi, sur le plan de la scolarisation, sur le plan d'accès au diplôme, c'est clairement les dispositions du rééquilibrage. Pour nous, le processus, il est encore engagé et qu'il n'est pas terminé. Et c'est pour ça qu'on a contesté le projet d'accord. C'est pour ça qu'on a retiré nos signatures.
Réponse du député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf. Il met en garde les députés sur l'organisation de nouvelles élections provinciales avec le corps électoral gelé. Il plaide quant à lui pour une consultation des Calédoniens sur l'accord de Bougival.
On pourra aller aux élections provinciales si les Calédoniens refusent l'accord de Bougival. Mais là, aujourd'hui, il y a un accord qui a été trouvé, qui est défendu par l'ensemble des forces politiques de Nouvelle-Calédonie, hors UC. Donc la moindre des choses, c'est que le peuple calédonien s'exprime sur cet accord et que l'Assemblée nationale arrête de prendre en otage le choix des Calédoniens. Si on devait aller aux élections provinciales, parce que l'Assemblée nationale refuse que les Calédoniens s'expriment sur Bougival, je voudrais vous mettre en garde sur une chose. Si elle se déroule avec le même corps électoral, je ne suis pas sûr que les dizaines de milliers de Calédoniens exclus, et même ceux qui ont le droit de vote mais qui défendent une Calédonie démocratique, acceptent qu'elle se déroule dans de telles conditions. Vous prenez le risque. Vous prenez le risque. Vous nous l'avez suffisamment dit. Vous nous avez suffisamment utilisé cet argument de votre côté pour dire « Attention, ça va mettre le feu aux poudres. Je connais la Nouvelle-Calédonie, je connais mon pays, je connais notre électorat, je connais nos gens. Je peux vous dire une chose, c'est que si les élections provinciales se tiennent en excluant encore des milliers de gens du droit de vote, ça ne pourra pas bien se passer. »
Et face à cette situation, la Nouvelle-Calédonie était au cœur d'une réunion d'urgence hier soir à l'Élysée. Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher se sont entretenus sur la réforme constitutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la République, le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont fait le point sur les difficultés d'adoption du projet de loi constitutionnelle qui est donc arrivé à l'Assemblée nationale. Et lors de cette commission des lois de l'Assemblée nationale, la députée LFI Mathilde Panot a interrogé le rapporteur du projet de loi, le député LR Philippe Gosselin, sur cette réunion qui s'est tenue, où le projet de loi donc a été évoqué. Écoutez la réponse de Philippe Gosselin.
Sur le principe, ça ne me choque pas que les plus hauts responsables de notre pays se réunissent pour évoquer une situation particulière, évidemment. Encore une fois, sans anticiper ce que seront nos débats la semaine prochaine, on aurait pensé que les débats d'hier, peut-être de ce matin, auraient été réglés en quelques petites heures. Finalement, vous voyez que ça se prolonge. Donc, il n'est pas de mauvaise politique d'envisager toutes les solutions qui passent par l'adoption du PJLC, le cas échéant, qui passent par son adoption avec des amendements substantiels et qui nécessiterait évidemment une seconde lecture au Sénat, voire un échec qui pourrait être ou pendant les débats, ou peut-être même dès la motion de rejet qui sera déposée. Donc voilà, il y avait nécessité effectivement, j'imagine, de se réunir, mais pas plus que vous, j'ai d'éléments.
Voilà donc pour ces quelques réactions à cette réunion de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Le projet de loi constitutionnelle passera donc en séance publique de l'Assemblée nationale à partir de mercredi prochain, le 1er avril. Et pendant ce temps-là, le travail sur la relance économique se poursuit. 240 milliards de francs sur 5 ans, c'est le montant que l'État va verser à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du pacte de refondation économique et sociale. Un pacte qui a été présenté par le haut-commissaire Jacques Billan, qui a réuni pour cela les responsables institutionnels et les partenaires économiques et sociaux. sociaux. Mais au-delà de la somme, ce pacte porte une ambition, Jean-François Bodin.
Cette ambition, c'est la reconstruction sur des bases solides et rapidement. Le haut-commissaire a rappelé que l'État avait d'abord répondu aux besoins urgents après la destruction de l'économie calédonienne et des conséquences sociales générées par les émeutes de mai 2024. Engagement qui a permis d'éviter l'effondrement économique et social de la Nouvelle-Calédonie. En 2024, l'État a débloqué 360 milliards de francs, puis 350 l'an dernier. Ce pacte est donc une nouvelle étape, a souligné le haut-commissaire Jacques Billan.
Après le temps de l'urgence, nous ouvrons aujourd'hui le temps de la reconstruction. Car chacun le sait, gérer la crise ne suffit pas. Et l'enjeu aujourd'hui est bien de rebâtir durablement l'économie et de redonner confiance aux acteurs du territoire. C'est tout le sens du pacte de refondation économique et sociale pour la Nouvelle-Calédonie qui vise à relancer l'économie, qui vise à investir dans l'avenir et qui vise à redonner confiance.
Et pour cela, 240 milliards de francs vont donc être consacrés à ce pacte de refondation préparé dans le cadre de la mission interministérielle dirigée par Claire Durieux, qui a aussi associé tous les acteurs économiques et sociaux du territoire et bien sûr les institutions. Ce pacte de refondation repose sur 6 piliers. Ce n'est pas une simple addition de lignes budgétaires, mais bien une stratégie sur les 5 prochaines années qu'il va permettre de déployer.
Le pacte, c'est d'abord une stratégie. Une stratégie pour reconstruire. La refondation ne se décrète pas, elle se construit avec une stratégie claire et des priorités assumées. Le pacte repose ainsi sur 6 grands piliers qui répondent aux principaux défis économiques et sociaux du territoire. Le pilier 1 consiste à relancer l'activité et l'emploi afin de remettre l'économie en mouvement. Il s'agit, dans le cadre de ce pilier, de soutenir les entreprises, de faciliter leurs investissements et d'encourager les initiatives locales pour recréer des emplois durables.
Sur ce pilier, le pacte prévoit une baisse d'impôts sur les sociétés et les zones franches, des garanties bancaires et du microcrédit consolidé, notamment en terre coutumière, ainsi qu'une défiscalisation pour la reconstruction des entreprises détruites pendant les émeutes. Le pilier 2 prévoit d'investir dans les infrastructures essentielles, de diversifier l'économie et de protéger les populations face au changement climatique et prévoit un plan quinquennal de protection des populations et de désenclavement, point sur lequel une communication plus précise est prévue dans les prochaines semaines, tout comme sur le pilier 3 qui consiste à construire un modèle durable pour le nickel. D'ici la mi-2026, les partenaires calédoniens, avec l'appui de l'État, devront élaborer un plan de transformation de la filière nickel et prendre les engagements nécessaires à son succès. La jeunesse n'est pas oubliée puisqu'elle est au cœur du 4e pilier de ce pacte et prévoit 1000 parcours d'insertion et d'engagement, 100 postes supplémentaires d'éducateurs et médiateurs et la création d'une compagnie supplémentaire du RSMA. Le 5e pilier consiste à rétablir les finances publiques et le 6e à renforcer la cohésion sociale par des actions de proximité. Sur tous ces points, la volonté de l'État est d'aller vite, a rappelé le haut-commissaire. Et l'État a validé déjà la mise en œuvre de 64 projets présentés par les institutions. Parmi ces projets, entre autres, la réhabilitation des ponts de la Tontouta et de Nouville, une nouvelle liaison Yengenka-Lagomène, une liaison Koutio-Ducos, des projets d'alimentation en eau potable ou équipement de gestion de déchets pour plusieurs communes ou encore la construction d'un centre d'incendie et de secours au Mont d'Or, des projets d'aménagement touristique sur les îlots Amédée et Canard, etc., etc. 64 premiers projets que l'État va prendre à sa charge à 100% pour un montant de 76 milliards de francs. Des projets concrets dont certains sont déjà lancés et les autres doivent démarrer avant la fin de l'année. Ce qui fait dire au haut-commissaire, nous franchissons une étape importante.
Le pacte entre désormais dans sa phase opérationnelle. Ces projets marquent le début concret de la mise en œuvre du pacte sur le terrain. Et ils illustrent une priorité simple, agir rapidement et produire des effets visibles pour les Calédoniens. Avec l'investissement de l'État, nous espérons que des projets qui auraient pris des années vont pouvoir finalement commencer très vite et en tout état de cause dès 2026.
Les 64 projets qui doivent donc démarrer cette année 2026 seront suivis d'autres. L'État continue en effet de recenser les besoins des collectivités pour ces projets qui seront lancés dans les années à venir.
Les acteurs économiques et sociaux qui ont contribué à l'élaboration de ce pacte dans le cadre de la mission interministérielle sont satisfaits de l'engagement de l'État. Une bonne nouvelle pour l'emploi, a souligné Christophe Coulson, le président de l'UT CFE-CGC à la fin de la réunion.
C'est un signe positif, je le prends comme ça. Le Haussaire a été clair en précisant qu'il fallait que ça démarre au plus vite. Et même, il a été jusqu'à dire qu'un bon nombre de projets seraient pris en charge à 100% par l'État pour faire en sorte que ça s'accélère le plus. Donc c'est vraiment un signe positif et j'espère qu'on va pouvoir constater de nouvelles créations d'emplois, que les entreprises vont reprendre de manière à relancer cette économie.
Un plan satisfaisant également pour le vice-président de la COGETRA, Tony Dupré, qui espère des retombées positives rapidement.
Satisfaisant dans la mesure où il est conforme à nos attentes en matière d'engagement de l'État, notamment d'engagement financier. La chose que nous, on relève, c'est que les travaux vont vite démarrer sur tous ces projets-là, structurants. Pourquoi ? Parce qu'on est inquiet par rapport aux derniers chiffres de l'ISEE en matière d'emploi, où on nous annonce encore une fois une perte de 2000 emplois sur un an. Donc il est temps que cela débute.
Les organisations patronales saluent également ce pacte de refondation économique et sociale. Il était nécessaire, commente le président du MEDEF, Bertrand Courte. Nécessaire, mais pas suffisant.
Nous sommes très satisfaits au MEDEF de ce qui vient d'être présenté. La présentation vient confirmer là, le début et le lancement de travaux concrets sur l'ensemble du territoire. C'est très important pour la relance, pour la survie de l'économie calédonienne. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Non, il va nous manquer quelque chose. Une stabilité institutionnelle et un accord.
Le président du gouvernement, Alcide Ponga, salue lui aussi ce pacte de refondation, mais il n'oublie pas la part que doit prendre la Nouvelle-Calédonie dans la reconstruction économique et sociale.
Ce qui a été présenté aujourd'hui, c'est toute la partie d'engagement de l'État, avec 240 milliards à peu près sur 5 ans qui devront être déversés dans des projets d'investissement des collectivités sur le territoire et puis d'autres secteurs également. C'est une partie du pacte de refondation. Il y a l'autre partie qui est aussi le travail de réforme que nous-mêmes, les élus calédoniens, devons nous atteler à faire avancer. C'est vrai qu'on est en période électorale, on sort des municipales, il va y avoir les provinciales qui arrivent, mais il faut garder ce momentum-là pour que la trajectoire qu'a pris la Nouvelle-Calédonie depuis à peu près un an maintenant, qu'elle puisse garder. Quand on parle de réforme, c'est de corriger certaines choses qui, par le passé, ont fait que la Calédonie aujourd'hui est à certains égards sur des déficits structurels qu'il faut corriger, parce que sinon on se plante à la fin, quoi.
Ce pacte de refondation économique et sociale peut être consulté par tous sur le site du Haut-Commissariat. Et nous y reviendrons ce matin puisque c'est Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle, qui sera notre invitée à 7h30.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Le pacte de refondation est-il selon vous à la hauteur des besoins de la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie ? Si vous pensez que ce pacte de refondation est à la hauteur, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Je vous donne la réponse à la question d'hier. 77% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils n'approuve pas la mise en place de corridors sanitaires pour assurer la continuité des soins alors que les aérodromes des îles sont bloqués depuis plus de 3 semaines maintenant. Ils sont donc 23% à dire qu'ils approuvent ces corridors sanitaires. Et enfin, rendez-vous sur notre antenne, parler de l'entrepreneuriat et le soutenir. C'est le but de la semaine de l'entrepreneuriat que lance la CCI la semaine prochaine. Alors pourquoi la faire maintenant, dans un contexte économique compliqué ? Comment accompagner les entrepreneurs et ceux qui veulent le devenir ? Ce sera ce midi le thème des jeudis de l'économie sur Radio Rythme Bleu. Jean-François Baudin recevra Benoît Dunoguès, responsable du département gestion des entreprises à la CCI, Pierre Massenet, élu à la Chambre de commerce et directeur général du groupe CIPAC, Elisa Mougel, qui est présidente de l'Ordre des notaires et l'expert comptable Marc Fosset. Il est 6h46, vous écoutez Radio Rythme Bleu, merci d'être avec nous. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire.
Le rappel des airbags Takata concerne une grande majorité des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale. Vous êtes propriétaire d'un véhicule Chevrolet, ce message vous concerne. En effet, le groupe automobile CPH informe ses clients qu'une campagne de rappel concernant des airbags de la marque Takata est toujours en cours. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule Chevrolet mis en circulation entre 2008 et 2017, modèle Aveo, Cruze, Silverado ou Taoe, votre véhicule est peut-être concerné. Réalisé exclusivement au village automobile au PK4 à Nouméa, le remplacement des airbags Takata défectueux est entièrement gratuit, avec le prêt d'un véhicule relais offert. Comment vérifier si votre véhicule fait partie du rappel ? Le groupe CPH a créé un site spécial pour cela. Rendez-vous sur cph-campagne-de-rappel-takata.nc et saisissez votre numéro de châssis pour obtenir une réponse immédiate. tapez cph-campagne-de-rappel-takata.nc. Si vous êtes concerné, prenez rendez-vous aussitôt via le site ou contactez notre atelier agréé par téléphone au 41 44 66 ou par email à rvairbags@cph.nc. Groupe CPH, toujours à vos côtés pour votre sécurité.
L'hôtel du Centre 3 étoiles Business vous accueille pour vos réunions stratégiques, vos déjeuners d'affaires à la pergola et vos séjours professionnels. Un lieu pensé pour la performance, le confort et la discrétion. L'hôtel du Centre, plus qu'un hôtel, votre partenaire business. Hôteldu-centre.nc, 237-100.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité politique et le FLNKS qui remercie ses électeurs après les élections municipales et il livre son analyse du scrutin. Pour lui, ces élections auront permis une clarification politique majeure sur le positionnement et la représentativité des différents camps en présence. Elisabeth Noir.
Et l'adversaire du FLNKS, c'est l'UNI. Dans ce communiqué signé de son président Christian Théin, le FLNKS se félicite de résultats significatifs dès le premier tour, avec des victoires dans des bastions historiquement acquis à l'UNI. Il affirme avoir été confronté au second tour à une mobilisation conjointe des loyalistes de l'UNI et du Rassemblement autour d'un mot d'ordre commun, faire barrage au FLNKS. Dans ce contexte, il dénonce, et je cite, « les fusions opportunistes, parfois contre nature, auxquelles ont procédé certaines listes unies, dans le seul objectif de mettre en échec les listes UCFLNKS arrivées en tête. Le FLNKS qui revendique aussi sa position de première force politique indépendantiste en affirmant que ces listes ont rassemblé 63% de l'électorat indépendantiste contre 26% à l'UNI et qu'au total, 3 électeurs indépendantistes sur 4 ont voté pour des listes anti-Bougival. Selon le président du FLNKS, ces résultats consacrent un revers cuisant pour l'UNI. Et Christian Théin conclut avec des menaces sous-jacentes. Il affirme que dans ce contexte, toute tentative de passage en force du projet de modification constitutionnelle issu de l'accord de Bougival ferait peser un risque sérieux sur la stabilité politique et sociale du pays.
Et le haut-commissaire, lui, a bien saisi le tribunal administratif de recours contre l'élection des maires de Lifou et de Yatté à l'issue des conseils municipaux d'installation du 20 mars dernier. Dans les deux communes, les maires, respectivement Pierre Roisé et Louis Houmou, ont été élus sans que les adjoints ne le soient lors de la même séance, contrairement aux règles encadrant la constitution de l'exécutif municipal. Estimant cette irrégularité de nature à affecter la validité du scrutin, le haut-commissaire demande l'annulation de ces élections et l'organisation de nouvelles opérations conformes au droit. Ces recours s'inscrivent dans le cadre du contrôle de légalité exercé par l'État sur les actes des collectivités territoriales. Ils ont aussi pour objet de garantir la sécurité juridique des institutions locales et le bon fonctionnement des exécutifs communaux. Dans l'actualité institutionnelle à présent, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tenait hier sa séance hebdomadaire sous la présidence d'Alcide Pongal et Ofichou.
Et on en retient que le gouvernement a examiné un avant-projet de loi du pays concernant la reconstruction après les émeutes de 2024. Il s'agit de prolonger des mesures exceptionnelles en matière d'autorisation d'urbanisme permettant de reconstruire certains ouvrages dégradés ou bien détruits lors des émeutes insurrectionnelles de 2024. Le gouvernement qui a également, au travers d'un avis, demandé à l'État que la Nouvelle-Calédonie puisse bénéficier du même prix de l'électricité qu'en métropole. Christopher Gigès, porte-parole du gouvernement.
Il s'agit de demander à l'État ce que ont les autres territoires d'outre-mer, c'est-à-dire la péréquation nationale sur le prix de l'électricité. Ça veut dire clairement de bénéficier du même prix de l'électricité qu'en métropole. Seule la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie sont exclues de ce dispositif. On n'est pas des sous-français en Nouvelle-Calédonie. On a le droit de pouvoir de bénéficier de cette péréquation. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Calédoniens est atteint et sera encore plus atteint avec ce qui va se passer au Moyen-Orient. Et donc, c'est important qu'on puisse avoir la péréquation nationale. On ne demande pas plus que ce qu'ont les autres. Et c'est ce qu'on avait demandé également sur le fret du produit, des produits de première nécessité pour préserver le pouvoir d'achat des Calédoniens.
Concrètement, sur l'électricité, ça pourrait faire baisser la facture des Calédoniens de combien ?
De 40 à 50%.
Des propos recueillis par Lionel Sabot. Et j'ajoute que si l'État venait à approuver cette demande de la Nouvelle-Calédonie, les tests pourraient entrer en vigueur début 2027.
Il est 6h passé de 52 minutes. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause publicitaire, puis l'actualité internationale et notamment ce plan américain pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient qui a été rejeté par Téhéran.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La Maison du Pneu, plus de 50 ans d'expérience et de professionnalisme pour votre sécurité. La Maison du Pneu, la plus large gamme au meilleur prix pour répondre à tous vos besoins. La Maison du Pneu, une équipe de pros et des services gratuits sur nos pneus, montage, équilibrage et réparation. Et c'est comme ça dans tous nos centres de Nouméa à Conné. Grande nouvelle, la Maison du Pneu fait sa promo rentrée. Jusqu'au 4 avril, 20% de remise sur les pneus VL, 4x4, SUV et utilitaires, mais aussi sur les pneus d'élévateur, poids lourd, mine et agricole. Profitez-en!
Projet d'aménagement, d'embellissement ou de rénovation? Envie de redécorer votre intérieur ou de sublimer votre extérieur? Ne manquez pas le salon Habitat et Déco du 27 au 29 mars dans un tout nouveau décor à Coekara. Trouvez l'inspiration pour vos projets auprès de 100 professionnels et participez à notre jeu. Rendez-vous à Coekara pour le salon Habitat et Déco. Toutes les solutions pour un lieu de vie qui vous ressemble. Entrée gratuite.
Optique Boulary, la solution pour vos lunettes avec contrôle de la vue, même sans ordonnance. Vos marques préférées, Oakley, Maui Jim, Michael Kors, Ray-Ban et votre seconde paire, offertes toute l'année. Optique Boulary, l'opticien du Mont d'Or.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Et le plan américain, je le disais, pour mettre fin à la guerre a été rejeté par l'Iran. Le régime l'a fait savoir par l'intermédiaire de la télévision d'État. Donald Trump avait pourtant déclaré qu'il avait bien négocié avec un responsable de Téhéran. Résultat, le président des États-Unis réplique et il promet maintenant qu'il déchaînera l'enfer si l'Iran fait un mauvais calcul. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Et par mauvais calcul, il entend sûrement ce refus en l'état de ce plan américain présenté à Téhéran la nuit dernière. Même si cela reste à confirmé puisqu'il n'y a aucune annonce officielle pour l'instant. Vous le disiez, l'information a été relayée par la télévision d'État. Officiellement, l'Iran dément toujours toute forme de discussion avec les États-Unis. On sait toutefois que ce plan américain a bien été transmis à Téhéran par l'intermédiaire du Pakistan. Officieusement, la situation est plus floue. Selon plusieurs médias iraniens, le régime aurait posé 5 conditions à l'arrêt des hostilités. On peut y voir une forme de réponse donc à la proposition américaine. Parmi ces demandes, la fin des assassinats des dirigeants iraniens, des garanties de sécurité pour éviter une reprise de la guerre après un éventuel cessez-le-feu et un schéma de dédommagement pour les destructions causées par le conflit. En attendant d'éventuelles négociations officielles, les hostilités se poursuivent. L'Iran menace ce soir de cibler une zone stratégique de la mer Rouge en cas d'intervention terrestre américaine, le détroit de Bab el-Mandeb, au moment où plusieurs milliers de marines et de parachutistes américains sont en train d'arriver au Moyen-Orient. Le contrôle de l'île iranienne de Karg serait au cœur d'un plan américain selon le New York Times.
Wilfried de Villers pour Europe 1. L'actualité en métropole après l'attaque au couteau à Goussainville dans le cadre des municipales et surtout cette volonté de désarmer la police municipale clairement affichée par exemple par le maire de Saint-Denis, Bali Bakayoko. Quelle réponse au gouvernement? Eh bien Laurent Nunez présentait son projet de loi Riposte en Conseil des ministres avec la promesse d'un choc d'autorité. Pourtant, sur le sujet inquiétant du désarmement, pas un mot. Ce paradoxe est-il tenable, Arthur Delaborde?
Oui, un angle mort politique. Deux textes avancent en parallèle. Riposte d'abord, un projet pour durcir la réponse face à la délinquance du quotidien. Sanctions renforcées, nouveaux délits, moyens d'enquête élargis. Et puis un autre texte sur les polices municipales. Lui vise à élargir leurs compétences, les intégrer davantage dans la chaîne judiciaire, leur donner un rôle plus opérationnel. Bref, renforcer l'autorité à tous les niveaux. Mais sur le terrain, le signal est inverse. Dans la ligne défendue par Jean-Luc Mélenchon, dans les villes insoumises comme Saint-Denis, les nouveaux maires entendent désarmer la police municipale. Un choix politique assumé et un contre-pied frontal, car ce ne sont pas que des décisions locales, c'est une vision de la sécurité qui s'oppose à celle portée par l'État. Et face à cela, silence du ministre de l'Intérieur, renforcé d'un côté, désarmé de l'autre, sans arbitrage de l'exécutif. L'autorité ne peut pas être à géométrie variable.
L'actualité en bref est Maître Gims qui est en garde à vue. Il est entendu dans le cadre d'une affaire de blanchiment en bande organisée avec de potentiels investissements immobiliers à l'étranger. Et en bref toujours, nous avons appris le décès de Loana, 48 ans. Elle a été retrouvée morte dans son domicile de Nice. Elle avait participé à la première télé-réalité Secret Story. Il est 6h passé de 56 minutes. Merci d'être avec nous. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le rappel des airbags Takata concerne une grande majorité des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale. Vous êtes propriétaire d'un véhicule Subaru, ce message vous concerne. En effet, le groupe automobile CPH informe ses clients qu'une campagne de rappel concernant des airbags de la marque Takata est toujours en cours. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule Subaru mis en circulation entre 2004 et 2014, modèle Impreza, Forester, Legacy Outback ou Tribeca, votre véhicule est peut-être concerné. Réalisé exclusivement au village automobile au PK4 à Nouméa, le remplacement des airbags Takata défectueux est entièrement gratuit, avec le prêt d'un véhicule relais offert. Comment vérifier si votre véhicule fait partie du rappel? Le groupe CPH a créé un site spécial pour cela. Rendez-vous sur cph-campagne-de-rappel-takata.nc et saisissez votre numéro de châssis pour obtenir une réponse immédiate. Tapez cph-campagne-de-rappel-takata.nc. Si vous êtes concerné, prenez rendez-vous aussitôt via le site ou contactez notre atelier agréé par téléphone au 41 44 66 ou par email à rvairbags@cph.nc. Groupe CPH, toujours à vos côtés pour votre sécurité.
Parce que chaque instant compte, AXA protège ce qui est précieux. Votre famille, votre santé, vos biens et votre épargne. AXA, plus qu'une assurance, un partenaire de confiance au quotidien.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et tout d'abord du cyclisme à la une de l'actualité sportive avec Dorian Gandon qui poursuit son très bon début de saison. Il s'est une nouvelle fois imposé sur le Tour de Catalogne. Il faut dire qu'il a remporté la première étape. Le Français s'est imposé sur la troisième. Au général, il possède désormais 11 secondes d'avance sur Remco Evenepoel et 16 secondes sur Tom Pidcock. Du tennis et Arthur Fils qui est le dernier représentant tricolore en Masters 1000 de Miami. Hier, Hugo Humbert, Quentin Alice et Terence Atman se sont inclinés en huitième de finale contre Francesco Cerundolo, Alexander Zverev et Frances Tiafoe. Arthur Fils qui jouera son quart de finale en fin de matinée contre l'Américain Tommy Paul. Et puis le sport côté calédonien, Léo.
Oui, avec trois jeunes pistards qui sont en Australie pour disputer les championnats U19 de cyclisme sur piste. Hier, lors de la course par équipe, ils ont terminé à une très belle quatrième place. Ils se sont inclinés lors de la petite finale.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous, Thierry.
Oui, il y a déjà du sourire dans les studios. Donc, il y a un beau temps qui me présente ce matin. On va parler du ciel à présent. Le ciel hésite encore du passage nuageux et de belles éclaircies plus nombreuses sur la côte ouest en espérant un beau ciel. Quelques ondées émailleront de Belep. La côte est, c'est les loyautés. Et le vent, lui, sera généralement fait pour ce jeudi matin. Cet après-midi, des développements nuageux se formeront sur la chaîne et déborderont vers le littoral ouest en donnant quelques averses localement soutenues et parfois un coup de tonnerre. Ailleurs, le temps sera partagé entre éclaircies et paquets nuageux. Le vent sera souvent fait pour cet après-midi et les température, elle, comprise entre 27 et 32 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Il sera disponible évidemment en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Elisabeth Noir et vous nous appellerez au 25 46 46 pour vous avez un avis.
Toute l'info en trois lettres, RRB.